allons prendre 10 minutes d'exhortation, 10 à 15 minutes. Comme nous avions dit, c'est un jour spécial où nous voulons adorer et louer Dieu à travers les chants et les prières. Et donc l'enseignement va prendre qu'une faible partie. Et nous lisons dans Romains chapitre 12. Nous lisons dans Romains chapitre 12. Romains 12, du premier verset au deuxième verset, c'est écrit ceci. Pour ce qui concerne... Non, j'étais en 1 Corinthiens, Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Notre frère Paul dit, ce que Dieu attend de nous, c'est que toute notre vie lui soit offerte. Il attend pas de nous que nous ayons des postes dans une église, que nous soyons applaudis par les humains. Il attend de nous que nous puissions offrir notre vie à Dieu comme une offrande. Les amis de Daniel, quand ils étaient devant la fournaise, devant le feu, ils n'ont pas pensé à une quelconque position d'honneur dans la société. Ils se sont dit, le moment est arrivé d'offrir nos vies en sacrifice pour notre Dieu. Le moment est arrivé d'entrer dans l'adoration suprême. Notre propre vie va être offerte à Dieu. Ils étaient dans la force et, je crois, la paix, finalement, d'entrer dans l'adoration suprême, c'est que de donner sa propre vie. Et c'est ce que Paul nous dit. Maintenant, Dieu ne va pas forcément nous enlever la vie physiquement pour l'adorer, mais Paul dit, même en étant vivant, que nos vies soient complètement à Dieu. C'est ça le culte que le Seigneur attend de nous. Et il poursuit en disant, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que votre intelligence soit renouvelée pour pouvoir servir Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc, la partie qui précède, c'est ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que on aura tendance à faire les choses comme au siècle présent. Paul nous dit, mais non, il faut que votre intelligence soit renouvelée afin de ne pas faire les choses comme dans le siècle présent. Et c'est l'avertissement que nous voulons donner aujourd'hui. C'est le conseil qu'on veut donner aujourd'hui. Faisons les choses avec l'intelligence renouvelée et non pas comme dans le siècle présent, non pas comme dans le monde. Et vous savez que le service pour Dieu, les choses de Dieu ont leurs analogues dans le monde. Ils ont leurs semblables dans le monde. Et en tant que chrétiens, nous devons faire attention quand on agit dans les choses de Dieu, dans un domaine quelconque, que ça ne soit pas comme ça se fait dans le monde. Parce que l'esprit du monde est opposé à l'esprit de Dieu. Donc, naturellement, notre chair nous pousse à imiter ce qu'on a vécu dans le monde ou ce qui se fait dans le monde. À nous de résister et de laisser Dieu renouveler notre intelligence, de laisser Dieu nous inspirer, de ne pas choisir le chemin de la facilité qui est de copier tout simplement ce qui se faisait dans le monde, qui est de laisser la chair s'exprimer comme dans le monde. Ça, c'est le chemin de la facilité, le chemin du sérieux. C'est rester calme, tranquille et laisser Dieu nous allumer par son esprit, nous réveiller par son esprit, nous travailler par son esprit pour qu'on fasse les choses selon lui. Dans un domaine quelconque, je prends l'exemple de l'amour. On ne peut pas aimer dans dans le Seigneur, on ne peut pas aimer comme on aime dans le monde. L'amour du monde est limité, alors que l'amour du Seigneur est sans fin. Et il n'a pas de limite. Et donc, quand Dieu nous pousse à aimer, ça veut dire qu'il n'y aura pas de limite. Est-ce qu'on pense que, avec l'amour du monde, on peut obéir au commandement du genre, on te donne une gifle sur une joue, tu laisses l'autre joue pour qu'elle soit aussi giflée? On ne peut pas obéir à ce genre de commandement. On te prend un manteau, tu donnes le deuxième. Avec la logique du monde, parce qu'il y a des gens qui ont un certain amour dans le monde. On peut avoir un certain amour pour nos enfants, un certain amour pour nos parents, tout ça. Il y a un certain amour, mais on verra que ça ne nous donnera pas la force d'obéir au commandement pur, d'amour total du Seigneur Jésus, qui, pendant qu'il est crucifié, il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est quand même trop. C'est trop pour la chair. Nous avons besoin que notre intelligence soit renouvelée. C'est ça le véritable amour. L'amour qui fait que, qui est d'abord inspiré de l'amour de Dieu pour nous, comme le frère Jean le dit dans 1 Jean 4, 19. Il dit, nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. C'est un amour pur, total, ce n'est pas l'amour du monde. Et donc quand on est dans les choses de Dieu, on voit beaucoup de personnes, malheureusement, continuer avec la sympathie, continuer avec le même amour qu'on retrouve dans le monde, de sorte qu'ils ne sont pas capables de dire « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ils ne sont pas capables d'appliquer le commandement qui dit « Bénissez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent », parce qu'ils n'ont pas encore laissé leur intelligence être renouvelée. Ils vivent la vie chrétienne naturellement. Ah non, on doit demander au Seigneur de renouveler notre intelligence. De ne pas... Quand il y a un domaine qu'on retrouve aussi dans le monde, on doit être sérieux pour vérifier. Est-ce que je ne suis pas en train de pratiquer dans ce domaine-là comme on pratique dans le monde? Ce n'est pas la même chose. Vous voyez, le Seigneur le dit lui-même quand il est ressuscité, quand il parle, non, avant de ressusciter plutôt, quand il dit aux disciples, il dit « Je vous donne ma paix ». Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Donc, le Seigneur, dans plusieurs endroits, il montre qu'il y a une différence entre ce que peut faire le monde et ce que peut faire Dieu. Il dit, ma paix à moi, ce n'est pas comme le monde la donne. Ça veut dire quoi? Donc, je dois être attentif à la paix du monde. Comment dans le monde la paix vient? La paix vient avec la sécurité matérielle. La paix vient avec la sécurité la protection, on est dans un pays où il y a une certaine protection. La paix vient avec les alarmes, tout ce qu'on peut mettre pour nous protéger. La paix vient lorsque tous nos enfants réussissent. La paix. Donc il y a des conditions qui donnent la paix dans le monde. Donc moi en tant que chrétien, je dois être attentif. Est-ce que ma paix ne vient pas peut-être du fait que tout me réussit? Je dois être attentif. Si c'est le cas, je dis Seigneur, pardonne-moi. Je veux que ta paix soit miraculeuse, pas une paix qui s'appuie sur des réussites terrestres. Ce n'est pas la véritable paix. Et moindre mauvaise nouvelle, la paix part totalement, parce qu'elle s'appuyait sur des choses du monde. Le Seigneur veut que notre intelligence soit renouvelée, que notre paix vienne directement de lui. S'il y a paix dans le monde, ma paix à moi doit être différente de celle qui est dans le monde. Ce qui fait que dans Psaume 112, verset 7, c'est écrit, le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Notre exhortation, c'est celle-là. Les domaines qui ont des semblables dans le monde, chez nous, ça doit être différent. S'il peut y avoir une certaine paix dans le monde, chez nous, ça doit être différent. Ça veut dire que dans la mauvaise nouvelle, dans la difficulté, moi, je dois trouver quand même la paix. Quand Paul dit dans Philippiens 4, 6 à 7, quand vous avez des besoins, parlez au Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on aura en premier quand on parle au Seigneur? Il dit dans Philippiens 4, 6 à 7, « Et la paix de Dieu gardera vos pensées en Christ. » Donc, première chose dont j'ai besoin, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas qu'on exauce mes prières, que je vois plutôt physiquement l'exaucement de mes prières. La chose dont j'ai besoin en premier, c'est d'abord la paix. La paix me garantit, la paix de Dieu me garantit que tout est réglé. Donc mon fonctionnement doit changer. Donc quand je prie le Seigneur, je suis en quête d'abord de paix. Et je sais que quand j'ai la paix, j'ai tout le reste. Donc tout ça doit changer. Là, par exemple la louange, on est là aujourd'hui pour louer et adorer. Mais on ne peut pas adorer, louer comme les gens dans le monde louent et adorent. Il faut que notre louange et adoration soit différente, qu'elle soit biblique. Puisque dans le monde aussi, on fait des louanges au président. On fait des louanges aux stars de football. On fait des louanges aux équipes de football. Mais moi, je dois observer tout ça et dire, mais moi, comment est ma louange et mon adoration vis-à-vis de Dieu? Ça doit dépasser de loin ce que je vois là. Et c'est pourquoi Paul dit au verset premier, c'est toute votre vie que Dieu veut. Il ne se contente pas des chants et des paroles, c'est toute la vie. C'est tout votre être. C'est important, bien-aimé. Moi, je vois par exemple dans l'église, il y a des moments, à peine le culte est fini, parfois on est même encore dans la grande salle, j'entends des gens se partager les résultats de football. On est encore dans la grande salle. Mais quand je suis adorateur de l'Éternel, je dis, il y a un problème. Mon Dieu est sur son terrain, quelqu'un d'autre vient régner. C'est vrai que nous devons prier Dieu partout, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même des temps et des lieux consacrés. Donc, il y a un lieu qu'on a, on s'est entendu, on s'est réunis ici pour Dieu. Et dans ce lieu-là même, je comprendrai encore que ça fait 20 minutes, 30 minutes, on est des humains, les informations passent dans la tête. Mais à peine on finit le culte, on est encore dans la grande salle. Et c'était combien? 2-1. Je dis, mais où est la fierté de notre Dieu? Je ne peux pas louer et adorer Dieu en infériorité par rapport à la louange et l'adoration du monde, par rapport à autre chose. Il faut que notre intelligence soit renouvelée. Donc il faut que les choses changent. Je ne peux pas chanter Dieu comme ça. Vous savez, quand il a fallu faire la guerre face à un groupe de peuples réunis contre Israël, Josaphat a mis des chantres, des gens qui louaient Dieu. Ils étaient avant les soldats. Je dois prendre conscience que ma louange à moi me donne une certaine victoire. Ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas des paroles de flatteur. Je ne suis pas un flatteur. C'est pas la même. Parce qu'il y en a qui sont comme des flatteurs, ils flattent Dieu. Mais non, on ne flatte pas Dieu, c'est la vérité ce qu'on dit. Parce que les flatteurs, c'est « Ah, monsieur le président, vous êtes beau comme un soleil radieux. » Voilà. Mais là, c'est alors que le président n'est même pas comme ça. Ça, c'est la flatterie. Mais nous disons la vérité. Et notre victoire quotidienne va en même temps que cette vérité-là, parce qu'il est écrit dans Apocalypse 12, 11, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Ce que nous disons de Dieu dans la louange, c'est ce qui va s'accomplir dans nos vies. Mais il faut que ça soit vrai. Il ne faut pas qu'on soit distrait. Il faut que quand on le dise, on se configure dans le temps de Josaphat où les chants étaient avant les soldats. Et quand il louait, Dieu a donné la victoire. Il faut qu'on se configure dans le temps de Josué, où ils ont sonné la trompette, les murailles sont tombées. Il faut que notre intelligence soit renouvelée dans tout ce qu'on fait. Puisqu'il faut savoir que ce qu'on fait se retrouve aussi dans le monde. Ce qu'on fait se trouve aussi chez les faux dieux. Donc il faut qu'il y ait une différence. Il faut que dans l'amour que Dieu met en nous soit supérieur à l'amour qu'un humain peut avoir pour quelqu'un d'autre sans Dieu. Il faut que ça soit supérieur, mais lorsqu'on voit tout simplement que l'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres, l'amour qu'on peut manifester, c'est à peu près pareil que le monde. Comment les gens vont se convertir? C'est cette supériorité-là qui compte. Le voleur à la croix a été déstabilisé. Il a vu Jésus, on injuriait Jésus, Jésus ne répondait pas. Il a entendu Jésus dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit, mais quel amour! Jusqu'à ce point-là, il a dit, moi aussi, je vais aller au paradis. Il a compris que là, c'était la supériorité. Ce n'est pas n'importe quel amour. Et il y a le raisonnement du diable qui va te dire, mais ce n'est pas logique ton amour. Non, c'est ça l'amour que Dieu attend. On ne peut pas louer, on ne peut pas adorer en infériorité par rapport au monde. On ne peut pas louer, on ne peut pas adorer avec l'intelligence du monde, nous devons laisser notre intelligence être renouvelée. C'est-à-dire que moi, quand je loue, j'adore, je suis dans un combat. Je suis aussi au ciel, parce qu'il est dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu, dans Colossiens 3:3. Donc quand je loue, je dois prendre exemple sur Apocalypse 5 et Apocalypse 4 qui nous montrent comment la louange se fait au ciel. Et donc je dois me configurer tout ça. Je ne dois pas louer, chanter comme ça, parler comme tout le monde. Non. Tout ça doit changer. Nous devons prendre les choses au sérieux. Quand je prie, je dois considérer que Dieu m'écoute. Vous allez me dire, oui, mais il y a des choses qu'on a demandées, ça fait 10 ans qu'on ne voit pas. Mais Dieu nous exhorte à prier toujours comme si c'était la première fois. Il est fidèle. Vous savez, il est écrit dans le psaume 126, quand les enfants d'Israël commençaient à rentrer chez eux, ils ont dit que c'était comme un rêve. Ça a pris 70 ans, mais un jour c'est arrivé. Quand Siméon a tenu le bébé Jésus dans ses mains, il a dit, Seigneur, maintenant je peux mourir en paix, je peux voir ton Messie. Est-ce que vous croyez que Siméon est le seul à avoir demandé le Messie, à voir le Messie? Non, il n'est pas le seul à avoir cherché le Messie, mais lui l'a cherché ça avec persévérance. Ne nous arrêtons pas parce que nous avons l'impression que on a prié avant, rien ne s'est fait. C'est faux. Dieu est en train de construire la réponse. Parce qu'il y a certaines choses, même pour Dieu, ça demande une certaine construction. Parce que ça n'implique pas que Dieu seul, ça implique des humains à qui Dieu a donné une liberté. Dieu doit les convaincre pour participer à son œuvre, à son plan. Alors, il y a la chair et le diable qui vont nous amener à la négligence de la prière en se disant, mais qui t'es-tu toi? Qui es-tu toi? Est-ce que Dieu va vraiment t'entendre? Qui es-tu toi? Ça fait 10 ans, tu as prié, il n'y a rien. Et on va commencer à prier puisqu'un chrétien prie. Non, bien-aimé, refuse ça. Vaut mieux que tu dises peu de paroles, mais avec sérieux, que beaucoup de paroles en bon chrétien. Mais peu de paroles, mais en parlant à Dieu. Tout simplement, la femme qui souffrait de perte de sang n'a pas fait de longues prières. Il a dit, si seulement je pouvais toucher son vêtement, je serais guéri. Il n'a pas fait de longues prières. Mais elle a été sérieuse. La prière, c'est parler au Dieu Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre. Vous vous imaginez le nombre d'étapes qu'on saute quand on parle à Dieu? Quand il a multiplié les pains, le nombre d'étapes qui a été sautées. Planter le grain de blé, attendre que ça pousse, récolter, moudre, mettre au four. Mais une simple prière a réglé tout ça. Ils ont amené le pain à Jésus en signe de confiance. Et là, je reviens encore sur la foi, on a peu de temps. Mais la véritable foi, c'est ça. Tu lui amènes les 5 pains et 2 poissons, sachant que il y a 5000 personnes, plus de 5000 personnes. Qu'est-ce que ça peut faire, 5 pains, 2 poissons? Mais tu lui amènes. Et dans cet acte-là, on voit tout dedans. 1, on voit l'adoration. Venir donner en sacrifice les 5 pains et les 2 poissons. C'est parce que le garçon qui donne ça, il se met dans une position d'être affamé lui-même. Parce que comment tu peux donner 5 pains, 2 poissons en espérant que ça nourrit 5000 personnes? D'une manière mathématique, quelque part, tu acceptes de prendre une toute petite miette. Mais, tu reconnais que devant toi, tu as le Seigneur des Seigneurs, il peut tout résoudre. Tu viens emporter les 5 pains et les 2 poissons en adoration. Il vient emporter les 5 pains et 2 poissons, les 5 pains et 2 poissons dans un esprit de foi, avec foi, que Dieu peut faire quelque chose avec ça. Tout est dedans. Et il manifeste le véritable amour. Il ne cache pas les 5 pains et 2 poissons. Il veut que tout le monde en profite. Amour total. Dans cet acte-là, nous voyons tout ce qu'on est en train de dire. La foi, l'amour, l'adoration, la louange. Mais à 100%, le sacrifice total. Offrez votre vie en sacrifice. Bien-aimé, Il y a tant de bonnes choses que Dieu nous réserve. Je nous en supplie, revenons à la simplicité. Quand tu parles à Dieu, parle vraiment à lui. C'est pas, même Jésus l'a dit, quand vous priez, ne faites pas comme les gens du monde, qui disent de longues paroles, croyant que par la longueur, ils vont être exaucés. Vous tapez sur la cible, automatiquement, directement. La cible, c'est Dieu. Visez Dieu. Dites-lui ce dont il est capable de faire. Hein? Ce qu'il est capable de faire. Dites-lui. Rappelez à Dieu ses promesses. Et il vous exaucera à cause de mon nom. Citez mon nom. Citez mon nom. Citez mon nom. Jésus nous a donné la simplicité. Mais nous continuons à prier dans la distraction. Bien-aimés, même si on n'a que 30 minutes de prière, soyons sérieux dans les 30 minutes. On n'a que 5 minutes de prière, soyons sérieux dans les 5 minutes. Disons des choses. Vous savez, qu'est-ce qui est dit dans Ecclésias 11 ? Parce qu'on, le temps commence à aller trop vite. Dans Ecclésias 11, c'est écrit, « Sème le matin, sème aussi le soir », au verset 7, je crois. « Parce que tu ne sais pas quelle semence va fonctionner. Est-ce que celle du soir ? Est-ce que celle du matin ? C'est ça la prière. Donc, au moment où tu pries dans une grande salle, tu pries sérieusement. Au moment où tu es seul dans ta chambre, tu pries parce que tu ne sais pas quelle prière ça va fonctionner. Bien-aimés, nous partons en mission. Il y a des gens parfois qui disent, mais vous dépensez trop pour ce que vous allez faire là-bas, vous n'êtes qu'à 3 ou 4 et peut-être là-bas il n'y a que 2 personnes qui nous attendent. Moi j'ai dit aux bien-aimés, on ne sait pas quelle prière va fonctionner. Celle où il y a 1000 personnes ou celle où il y a 5 personnes. Comme on ne sait pas, nous obéissons à l'appel de Dieu. Nous allons quand même prier en Suisse à 5. On ne sait pas. On était parti en Afrique du Sud, on avait prié, le pays était en désordre, il y avait un président mauvais, escroc. Mais on était à combien? Peut-être à 6. On a dit, Seigneur, change le gouvernement, change les choses dans le pays. Une année après, on part en même Afrique du Sud, Dieu nous fait expérimenter le changement. Le président, il saute, il est démis de ses fonctions. Mais on n'était qu'à 6 ou à 7. On ne sait pas quelle prière va marcher. Est-ce que c'est avec 6 ou 7 personnes ou avec 1000? Comme on ne sait pas, Ecclésias 11 nous dit, au moment où tu peux faire, fais bien. Parce que tu ne sais pas dans quelle prière va fonctionner. Tu ne sais pas quelle semence va fonctionner. Donc au moment où nous louons Dieu, soyons sérieux, ici ou ailleurs, que nos pensées soient en lui. Au moment où nous manifestons la foi, soyons sérieux. Au moment où nous travaillons pour l'œuvre de Dieu, soyons sérieux. On ne sait pas à quel moment ça va avoir de l'impact dans l'univers. Donc à chaque instant, soyons sérieux. Que nous puissions aussi faire cet effort de comparer avec le monde. Jésus a dit dans Matthieu 5, 20, je crois, que votre justice soit supérieure à celle des pharisiens. Donc il faut que notre adoration, notre louange, la foi, la prière, la collaboration avec Dieu, la soumission à Dieu, ça doit être supérieur à ce que les hommes peuvent témoigner envers leur père ou envers les faux dieux. C'est là que je clôture. Que notre intelligence soit renouvelée afin que nous ne fassions pas les choses de la même manière que les gens du monde font. Parce que nous avons des domaines parfois semblables, des domaines parfois comparables. On a vu David quand il a dansé pour Dieu. Même les gens du monde étaient dépassés. Parce que la puissance venait du ciel. Les gens du monde étaient dépassés. Mais quand on triche le monde, ça ne marche pas. Parce que la femme de David était charnelle. Mais elle était dépassée par le niveau, parce que c'est le niveau du ciel. Mais quand on imite le monde, où est la puissance de Dieu? Faisons attention, que notre intelligence soit renouvelée, ne nous conformons pas au siècle présent, ne nous laissons pas influencer par le monde, mais soyons humbles, laissons-nous inspirer par le Saint-Esprit et faisons les choses de Dieu avec sérieux et assurance. C'est ce que le Seigneur attend de nous. pas comme le monde. Faisons cet effort de comparer à chaque fois. Est-ce que je ne suis pas en train de mener mon projet comme le mènerait un chef d'entreprise mondain? Est-ce que je ne suis pas en train... Il faut comparer tout cela. Est-ce que je n'éduque pas mes enfants comme le ferait tout homme dans le monde un peu sérieux? Non. Donc on se dit, ah non, là, je n'ai jamais prié pour eux, je ne prie pas pour eux. Je ne m'humilie pas devant eux. Je demande. Il y a des gens qui, des parents qui demandent jamais pardon à leurs enfants quand ils font des erreurs. Donc il y a tout ça qui fait que finalement, en tout compte fait, tu es en train d'éduquer comme on nous a éduqués autrefois par des parents non chrétiens et qui ne s'humiliaient pas. Peut-être que ton humiliation va permettre leur changement. Donc, bien aimé, en conclusion, faisons les choses quand on fait pour Dieu, que ce soit différent de ce qui se fait dans le monde, que ce soit pur, inspiré par le Saint-Esprit, que ce soit glorieux à l'image de Dieu, que ce soit simple à l'image de l'humilité de Christ, que ce soit vrai, que ce soit avec une foi totale, une soumission totale à Dieu, toute une vie livrée au Seigneur, tout en lui faisant confiance qu'il agira. Il est tout puissant. Quel que soit le temps, il agira. C'est pourquoi, bien-aimés, nous voulons vraiment le célébrer aujourd'hui, l'adorer, le louer. Il est plus que tout. Et on ne va pas le faire moins bien que les gens, vous savez, qui adorent dans les stades de football, mais finalement, quand le match finit, ils pleurent. Au début, ils louaient, ils chantaient. Le match finit, ils ont perdu, ils pleurent. Nous, nous ne perdons jamais. Donc, ce qui fait que ça n'arrivera jamais que ça finit, on pleure. Donc, c'est ça la différence. On sera toujours dans la joie. Donc, on doit louer Dieu avec force, sachant que jusqu'au bout, il n'y aura jamais de pleurs. Il n'y aura pas d'hésitation. Le Seigneur est vainqueur. C'est pourquoi nous voulons le bénir au nom de Jésus. Nous allons chanter, bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur. Vous savez, ce chant-là a été composé en faisant référence au choral que David avait établi. David avait établi des chorales qui louaient Dieu tous les jours, tous les jours. Et il y avait des gens qui avaient leur tour la nuit. Alors on les encourage, on dit, bénissez le Seigneur, vous tous qui vous réunissez la nuit, parce qu'ils avaient la partie la plus difficile. La nuit, les gens, chacun est chez lui, il se prépare à manger et dormir. Ces gens-là avaient le tour le plus difficile. Et David, donc on a composé ce psaume pour dire, mais vous qui adorez Dieu la nuit, mais bénissez le Seigneur. Voilà. Soyez aussi forts que nous la journée, même si c'est la nuit. Donc, on le dit dans ce souvenir-là, même si nous, aujourd'hui, on est dans la journée.